Chapitre 5. Préliminaire au jugement. Finalement, on apprend que, lors du jugement, nous aurons droit à un avocat. Je retourne rue Buissy-d'Anglas, où je fais la connaissance de celui qui doit assurer ma défense. Grand, la trentaine, impeccablement sanglé dans son uniforme, il se présente de façon correcte, sans arrogance. Il parle parfaitement le français. Nous n'avons donc pas besoin d'un interprète. Je suis persuadé que ce dernier point a beaucoup d'importance. Mais attention, il s'agit d'un Allemand et je reste très méfiante. Je m'en tiens toujours à mon système de défense et me borne à dire que je ne suis pas coupable. Vous êtes très jeune, me dit-il. Trop jeune. Vous n'avez rien à faire dans cette galère. Vous vous êtes laissé entraîner. Mais je ferai tout ce que je pourrai pour vous défendre. Ne sera-t-il écouté par le tribunal? Tout n'est-il pas réglé d'avance? Les préliminaires du jugement sont clos. Nous ne retournerons pas rue Boissy-d'Anglas. Nous savons maintenant que nous comparaîtrons début juillet devant la cour martiale de Lübeck. Le jugement. Le matin du jugement, nous sommes amenés sous bonne escorte dans un baraquement situé dans l'enceinte de la prison de Fresnes. Les hommes sont déjà là. Immédiatement, je suis frappé par la maigreur des plus jeunes, ainsi que par la pâleur de leur visage, marquée par les souffrances de la détention et la rigueur des interrogatoires. La salle dans laquelle nous nous trouvons, assez vaste, est sobrement meublée. À notre gauche sont disposées chaises et tables pour les avocats qui ont déjà pris place. À notre droite, des militaires, sous-officiers et officiers, et des civils, peut-être des inspecteurs de police ou des journalistes. Au-dessus de la tribune surélevée qui nous fait face, un portrait d'Hitler préside au débat. Un décorum très simple, dénué de tout apparat. Peut-être un drapeau à croix gammée dans un quart de la pièce derrière la tribune, mais je ne puis être formel sur ce point de détail. C'est donc dans ce décor que nous allons, aujourd'hui et les jours qui vont suivre, assister au déroulement de notre procès. Un commodement bref. La garde claque des talons et se fixe dans un rigide garde-à-vous. Nous nous levons. Entre le président, ses deux assesseurs et le procureur, tous des militaires bien entendu. Un militaire prend place sur le même côté que les avocats. Nous saurons, dès que vont commencer les débats, qu'il s'agit de l'interprète. Une jeune femme espagnole lui est adjointe pour traduire à l'intention de l'espagnol Gregorio Cabrera. La cour prend place sur la tribune. Nous pouvons nous asseoir. Le président, un homme d'une cinquantaine d'années, à cheveux blancs plaqués avec, sur le côté de la tête, une raie parfaitement alignée, échange à voix basse quelques mots avec ses assesseurs. Il compulse des papiers et leur en remet quelques-uns. Son regard sévère fait le tour de la salle, depuis les avocats jusqu'aux civils. La peur qui ne nous a pas quittés depuis des semaines se fait plus présente encore quand le regard de celui qui dispose du droit de vie ou de mort se pose sur nous. L'acte d'accusation. Ayant fait l'inventaire des lieux, il commence la fastidieuse lecture de l'acte d'accusation. L'interprète traduit simultanément. Président, appelle chaque accusé. Avant d'exposer les griefs, il lui demande, entre autres, quelle est sa religion. Chacun répond selon sa croyance. Seul, Marius Cyr répond, athée. Pourquoi cette question? Je l'ignore. Cela reste une énigme pour moi. Peu importe. À la fin de l'exposé, le président invite l'accusé à formuler ses observations. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Jules Godefroy, à qui est reproché d'avoir hébergé des terroristes, d'avoir entreposé chez lui des tracts, des armes et des explosifs, nie farouchement. Je recevais des amis. Je ne leur demandais pas ce qu'ils faisaient. Quant aux armes, aux tracts et aux explosifs, on est venu les mettre chez moi à mon insu. On a voulu me nuire. Quand vient le tour de Gregorio Cabrera, il s'évertue à dire qu'il n'a fait que prêter sa bicyclette. Véric était un voisin sympathique. Il m'a demandé de lui prêter mon vélo. Je ne lui ai pas demandé pourquoi faire. Je le lui ai prêté. C'est normal, monsieur le président. Visiblement, Cabrera ne comprend ce qui lui arrive. Pourquoi elle est là? Nous le savons, nous. Cabrera, réfugié espagnol, a combattu contre Franco. La lecture de l'acte d'accusation se poursuit. Nous sommes 23 à nous lever à l'appel de notre nom. Chacun tente de se défendre. Cette procédure se poursuivra au-delà de la première séance. Nous retournons dans nos cellules respectives. Mon moral est bas. Qu'adviendra-t-il de nous? Le fil de la vie sera-t-il rompu brutalement face au peloton d'exécution? Ou continuera-t-il à se dérouler, infiniment ténu, dans les géoles d'Outre-Rhin? Le réquisitoire. Le troisième jour, c'est au tour du procureur d'entrer dans le débat. Il ne fait pas de détails et considère que, tous, nous méritons la peine capitale. Nous sommes une bande de terroristes menant des actions communes et concertées contre le Reich. Les attentats dans lesquels nous avons tous une part de responsabilité ont causé la mort de nombreux soldats allemands. Non, vraiment, il ne peut être question d'indulgence à notre égard. Après cet impitoyable réquisitoire, la peur et le découragement s'appesantissent plus lourdement sur nous. Nous le savons, un réquisitoire est toujours excessif. Mais ne va-t-il pas influencer le tribunal? Le moral est bas. Quand la séance levée, nous regagnons nos cellules. La plaidoirie. Nous en sommes au quatrième jour de notre comparution. C'est au tour des avocats de prendre la parole. Ils ont chacun plusieurs accusés à défendre. La plupart méconnaissent le français, ce qui les rend peu convaincants. Les plaidoiries sont nécessairement brèves et certains semblent s'acquitter d'une corvée. Quand vient le tour de mon avocat, il prend ma défense avec beaucoup de conviction et de sincérité. Il largue de ma naïveté, me laissant démuni face aux sollicitations, aux incitations à m'engager dans une voie dont je n'ai pas discerné le côté pernicieux, ni mesuré les risques encourus. Il demande au tribunal de considérer ma jeunesse et la futilité des faits qui me sont reprochés, en m'accordant les circonstances atténuantes. Tout est joué. Demain, mardi 13 juillet, seront rendues les sentences. La nuit va être difficile. La sentence. Mardi 13 juillet. Quand nous regagnons nos places dans la salle du tribunal, nous avons tous très peur. L'insomnie et l'anxiété marquent nos visages. Malgré la chaleur oppressante qui sévit dans la salle, en cette journée de juillet, j'ai froid dans tout le corps. Je réprime difficilement un tremblement dû à l'angoisse. Je relaterai brièvement cette séance. À part l'énoncé des sentences, souvent rappelées depuis, mes souvenirs sont trop imprécis pour que j'en fasse état. Il faut bien se rendre compte que, dans l'état d'extrême fébrilité dans lequel j'étais, il ne m'était pas possible d'enregistrer textuellement les déclarations. Pas plus que le déroulement des faits dans leur chronologie exacte. Par contre, la rigueur, l'anxiété, la peur, omniprésentes tout au long de ce procès, sont la traduction fidèle de mes sentiments au moment des faits. Les années n'ont pu en effacer le souvenir. Le président ouvre la séance par une allocution à notre attention, stigmatisant notre action au service d'une mauvaise cause. Les actes qui vous sont reprochés ont porté atteinte à l'armée allemande. Des soldats ont perdu la vie dans des attentats perpétrés par vous. Je dois, malgré cela, reconnaître votre courage. Vous avez cru servir votre pays. En réalité, vous avez été abusé par la propagande mensongère distillée par ceux qui sont vos ennemis. Votre pays en a souffert depuis des siècles jusqu'à ce jour. L'histoire de notre nation en est le témoignage. La France a été envahie et occupée pendant près de 100 années par les Anglais. Actuellement, de nombreux Français périssent sous les bombardements qui écrasent vos cités. Ce sont eux vos ennemis. Vous ne l'avez pas compris. Vous vous êtes trompé. En ces temps difficiles, décisifs, où chaque acte, chaque choix est lourd de conséquences, vous n'aviez pas le droit de vous tromper. C'est pourquoi vous ne pouvez espérer aucune indulgence. Il n'y a rien à tortiller. Nous sommes invités à nous lever. La cour, les avocats, les policiers, les journalistes, les accusés. Nous sommes tous debout. Les militaires derrière nous sont immobiles dans leur impeccable garde à vous. Le silence est impressionnant, angoissant. Le moment est solennel, intense pour tous. Enfin, le moment est venu de savoir. Le président énumère des noms. 16 condamnations à mort, 5 peines de détention à vie, 1 acquittement. Madame Desmonts. Je suis condamnée à 1 an de réclusion, plus la prévention, 17 mois. On nous indique que la confirmation du jugement aura lieu dans les 2 mois qui suivent. Reste pour tous les condamnés à signer un recours en grâce tout à fait illusoire. Ainsi, tout est fini.